One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut amis auditeurs, salut Ariane, salut Ghislain, comment
allez-vous? Bonjour Philippe.
Vous êtes en forme?
Oh oui, comme d'hab, et toi?
Ouais, ça va. Ariane?
Moi, toujours contente de parler de Monique.
Eh ben, on va parler de Monique pour la quatrième fois ce mois-ci, et certainement pas la dernière fois. Tu es d'accord? En plus, on parle d'un chapitre qui te tient particulièrement à cœur, un chapitre de son ouvrage de référence qui s'appelle « La pensée straight ».
Oui, voilà, dans les semaines précédentes, tu disais que pour toi, l'élément le plus important et le plus subversif dans sa pensée, c'était la présentation de l'hétérosexualité comme un système politique. Et moi, j'ai trouvé... Encore plus porteur d'émancipation.
Ouais.
Une fois que j'avais digéré les premiers chapitres,
ouais.
Celui-ci, j'ai mis plus longtemps à m'en imprégner. Et voilà, en discutant avec vous, en préparant cette émission, je me suis dit « Waouh, en fait, c'est vachement fort !»
Alors, ce chapitre dont il est question,
s'intitule
voilà, « Homo sum ». Et elle fait, elle met en évidence une lecture, on va dire, binaire de tout.
Ouais,
de tout. Alors, éventuellement, je lis un petit extrait. Voilà, donc c'est parti. Parmi les premiers philosophes grecs, certains étaient matérialistes et tous étaient monistes. C'est-à-dire qu'ils ne percevaient aucune division dans l'être. L'être, en tant qu'être, était un. Selon Aristote, c'est à l'école pythagoricienne que nous devons l'apparition de la division dans le processus de la pensée et par là même dans la pensée de l'être. Au lieu de penser en termes d'unité, les philosophes ont introduit la dualité dans la pensée et dans le processus de raisonnement. Considérons la première table des contraires que l'histoire nous a fournie et telle qu'elle a été rapportée par Aristote dans la métaphysique. Alors, première colonne. Limité, impair, un, droite, mâle, immobilité, droit, lumineux, bon, carré. Deuxième colonne. Illimité, pair, plusieurs, gauche, femelle, mouvement, courbe, obscur, mauvais, rectangulaire. Alors, ce sont des expressions qui relèvent du jugement et de l'évaluation des concepts éthiques qui sont étrangers à la série dont je les ai extraits, dit Monique Wittig. La première série est une suite de termes techniques, instrumentaux, qui renvoient à la division requise par l'outil pour lequel elle a été créée, pour une sorte d'équerre carrée que l'on appelle un gnomon. Pythagore et les membres de son école étant des mathématiciens, leur série est compréhensible. La seconde série est hétérogène à la première. Ainsi, dès qu'ont été créés les précieux outils conceptuels fondés sur la division, les variations, les comparaisons, les différences, ils ont été immédiatement, ou presque immédiatement, transformés par les successeurs de l'école pythagoricienne en moyen de créer une différenciation métaphysique et morale dans l'être. Voilà, c'est donc extrait du fameux chapitre Homo Sum. Et on voit... D'où provient en fait cette vision binaire ou dualiste du monde? D'où elle provient en tous les cas?
Moi, ce que je trouve surtout porteur d'émancipation possible et de, enfin voilà, de bouleversement des modes de pensée, c'est que ça fait surtout état d'un avant. C'est-à-dire que il y a eu des penseurs, des philosophes, mais aussi des mathématiciens, enfin tout un tas d'intellectuels et autres qui ont
qui avaient une perception différente.
Voilà, hein. Monistes donc. Mmh. Et voilà, il y a des gens qui ont vécu sans cloisonnement dichotomique. Et alors ça, moi je trouve ça vertigineux quoi, comme voilà, là ça me crée en moi une aspérité et elle me donne le levier. Bon, je l'avais déjà hein, parce que bon, la dichotomie de genre, merci quoi, comme truc rasoir. Mais voilà, ça permet de d'aller questionner. Cette façon de regarder le monde en oui, non, blanc, noir...
0, 1, comme les machines.
Dedans, dehors, voilà.
C'est ça, c'est-à-dire que même les machines qu'on invente, elles sont binaires, elles fonctionnent en binaire. Alors même les trucs, tu vois, qu'on invente, ils sont...
Bon, l'informatique, c'est clair que voilà, le binaire fait fonctionner l'informatique très bien. Mais par contre, la façon de compter... Il y a eu des civilisations qui n'ont pas compté en système décimal.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, elles ont fait grand bruit en décembre 2012 et jusqu'en décembre 2012.
Les Mayas, mais même voilà. Regarde,
et les, pas fini.
Les mesures anglaises et tout ça, c'est pas des systèmes décimaux.
Pour passer d'un échelon à l'autre, non, mais enfin voilà, c'est. Mais oui, donc il y a plusieurs façons de compter et enfin voilà. Mais là, on est, enfin voilà, la Grèce antique, c'est un espace géographique et culturel qui est pas aussi lointain que les Mayas, quoi. Et voilà, donc dans ma sensation lointain géographiquement et au niveau de l'héritage culturel qu'on peut avoir ici, voilà.
C'est notre héritage. Enfin, on vient de là, hein, nos sociétés occidentales, effectivement.
Voilà, donc c'est deux points. Non, parce que j'explique, Ghislain faisait des grimaces. Hein, donc,
je fais des grimaces, c'est que mon cerveau de blonde se met en route, et du coup, il y a des, choses qui fonctionnent cerveau, plus, enfin. Tu vois.
Ah,
et
d'accord.
Du coup, ça fait faire comme des grimaces, tu vois, parce que je peux pas faire 50 milliards de trucs à la fois.
Voilà, et du coup, ça, moi j'ai la sensation que ça me rend accessible. Voilà, c'est ce système, une aspérité, un levier, et hop, remettre en cause un ordre établi. Voilà, je trouve ça hyper fort de venir. Et du coup, depuis qu'on a commencé à préparer cette émission et depuis qu'on a parlé d'avoir vraiment une émission consacrée à ce chapitre, j'entends, je suis sensible. Comme je peux être sensible aux réflexions implicitement sexistes, je suis sensible aux imprécations des journalistes, par exemple, qui somment les personnes qu'ils interrogent de se positionner.
Voilà, il y a une alternative.
Un truc, oui, non. Voilà,
c'est ça. Bah, c'est vrai dans le monde médiatique, mais pas seulement. Dans beaucoup de milieux professionnels, en fait, on n'a pas toujours le choix, mais quand on l'a. C'est, voilà,
c'est un choix
une alternative
binaire.
qui se pose à toi. Et effectivement, c'est totalement binaire. On n'est pas dans un monde de la nuance. Hein. Dans beaucoup de domaines, on nous demande de choisir. Voilà, il y a deux possibilités et il faut se positionner. On doit aimer telle ou telle chose, mais pas forcément les deux. C'est quand on préparait l'émission... Je parlais un truc qui revient régulièrement dans le milieu pop-rock, c'est tu es Beatles ou Rolling Stones ? Ben, les deux. Pourquoi pas les deux ?
Mais en plus, tu vois, c'est une question qu'on te pose pour savoir si tu fais partie de... Si t'es dans ma bande
de
ou pas.
De quelle secte tu fais partie ?
Non, mais c'est est-ce que t'es dans ma bande ou pas ? Et c'est un ressort de cloisonnement social.
Oui, oui.
Donc, tout ce qui m'énerve. Mais tu retrouves ça sur plein d'autres choses. Et puis, moi, de ce point de vue-là, un truc du moment qui m'énerve plus, c'est les blagues débiles. Genre, tu préfères qu'on t'ampute les bras ou les jambes. Enfin...
C'est vrai que c'est débile.
C'est, enfin, voilà. Mais, ouais, c'est vrai que c'est... Oui, c'est omniprésent. Et quand on s'en rend compte, on se dit... c'est vertigineux.
Et comment on peut faire évolution à ce niveau-là, alors ? Parce que si tu dis,
bah chaque fois que tu dis les
si
deux.
On te demande, bah voilà, mais alors du coup,
Mais c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a... Là, c'est vraiment articulé avec des ressorts sociaux parce que quand, voilà, pour, contre, ceci, cela, si en plus si tu refuses de prendre parti, si la personne qui te pose la question s'est elle-même positionnée d'une part ou d'une autre, si tu refuses de prendre position devant elle, malheureusement, il y a quand même pas mal de monde qui a tendance à s'imaginer que c'est parce que tu n'oses pas dire que tu es de l'autre camp.
Voilà, c'est assimilé en fait à une certaine lâcheté, on ne se positionne pas.
Voilà. Ou alors, c'est parce que... Enfin voilà, mais de toute façon, ça veut dire que tu n'es pas de ma bande. Tu as refusé d'être avec moi, tu n'es pas de ma bande. Quoi. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est vachement sensible sur la problématique de cloisonnement sociaux et puis de fermeture des esprits sur les nuances qui existent, mais aussi au niveau des rapports humains, c'est vachement réducteur. Si tu te coupes de toutes les personnes qui... Enfin, voilà, c'est un appauvrissement terrifiant, quoi. Et c'est pour ça que moi, c'était ce chapitre-là qui m'avait le plus marqué, finalement, puisque, bon, les autres, j'avais pu ressentir... le lien avec d'autres lectures que j'avais pu avoir, que ce soit de Judith Butler ou de Béatrice Preciado, le regard sur un monde hétérosexiste, capitaliste, mais voilà, là, cette remise en question de la dichotomie en général, pas seulement de la dichotomie de genre, waouh, je trouve ça énorme. Quoi.
Mais c'est pas le chapitre le plus simple à appréhender non plus, parce que c'est effectivement... compliqué de voir comment on peut se sortir de ça, en fait. Hein.
C'est pour ça que je le juge encore plus subversif que le questionnement de l'hétérosexualité, parce que finalement, pour nous qui avons déjà un petit peu pensé, même si on se dit « Ah ouais, ça va jusque-là, quoi, ah oh là là, ouais, voilà, on arrive à adhérer un petit peu plus rapidement, alors que là, ça me semble plus difficile... de faire le saut culturel pour sortir de ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus subversif, parce que je me sens moi-même plus profondément conformée de ce point de vue-là, et ça m'est donc plus difficile. Mais donc, c'est porteur éventuellement d'une émancipation d'autant plus grande, quoi.
Mmh. Ah ouais, tiens, c'est rigolo, parce que pour moi, c'est vraiment la langue... C'est tout ce qu'on disait sur la langue qui est vachement difficile, en fait.
Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est quelque chose que je travaille déjà.
Cette langue hyper-genrée qu'on a et qu'on utilise tout le temps, tous les jours, je trouve que ça, c'est vachement difficile à remanier.
Mm. Oui, mais là, elle donne déjà quelques pistes outils pour travailler là-dessus.
Oui, mais en littéraire, c'est-à-dire quand tu écris un livre, sauf que ce qui est important aussi...
Tu peux l'utiliser dans ta façon de t'exprimer tous les jours. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus... Essaye le jeu avec un slash voilà.
dans ta vie.
Le E majuscule, c'est déjà très, très perturbant. Mm-hmm.
Hein. Bah voilà, mais comment je fais le E majuscule quand je parle? Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire les pistes, comment tu les fais quand tu parles, parce
Philippe,
que ce qui est important...
Philippe, il le fait à chaque ouverture des CLP, il dit « auditeur re ». Il dit pas « chers auditeurs et auditrices », il dit « auditeur re ».
Ça me demande un gros effort, mais je fais « re ».
Voilà, c'est ça.
Mais ouais, non, mais c'est vrai que sur la langue, je suis d'accord, c'est extrêmement fort, mais c'est vrai que là, je me place dans mon parcours personnel, où ce questionnement de la langue, je le pratique. Moi, j'écris, C'est un questionnement qui est déjà bien avancé chez moi personnellement, donc pour moi, très très subjectivement, là où il me reste le plus de travail, où c'est le plus inédit pour moi, ça, c'est dans ce qui est porté dans Homo Sum. Mmh.
Après, pour en revenir à la langue, ça devient plus compliqué quand tu dois le faire dans des espaces contraints, milieu professionnel par exemple, là il n'en est même pas question. Encore, quoi.
Ça dépend de ton espace professionnel.
Oui, tout à fait. Non, mais je parle d'espace vraiment très, très... avec des conventions très fortes. Du coup, C'est pratiquement impossible, sinon on passe pour un incompris total. C'est même pas une histoire de rébellion. C'est y a même pas de,
ça n'existe
de dialogue
pas.
Possible. Ça n'existe pas. C'est incompréhensible.
Tu as fait une faute de frappe, t'es fatigué ou je sais pas quoi. Mmh. Qu'est-ce qui t'arrive?
Petite pause musicale peut-être.
At high volume, preferably in a residential area.
Est-ce que vous avez reconnu la voix?
Mais ça compte pas, tu nous l'as dit avant.
Ah oui, c'est vrai, je te l'ai dit avant.
Ben
oui,
ouais.
Moi aussi.
À toi aussi.
Ouais. Voilà.
Donc, c'était...
Donc oui, on a reconnu la voix.
C'était Gesh Paty.
Ouais, c'est Gesh Paty. Mais est-ce que vous connaissiez
Marquise.
Ce titre,
non.
Marquise, dans un album qui date de 95 qui s'appelle Blonde.
Comme ah ben, c'est mon album.
C'est ton album. À redécouvrir Gesh Paty, particulièrement cet album-ci.
Elle en a fait d'autres ?
Depuis, je ne crois pas. Je crois que c'est le dernier en date. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est quelqu'un de rare. Comme Monique Wittig. Il nous reste 10 minutes pour conclure tout ce mois, passer en compagnie de Monique Wittig. Et
il y a des chapitres dont on n'a pas du tout parlé.
Il y a des chapitres dont on n'a pas du tout parlé. Et qui éventuellement...
qui méritent aussi
mériteraient leur place dans notre moi. Par exemple, bah, je ne sais pas, est-ce que...
Mais
il y a un oubli considérable qu'on aurait fait.
Ghislain parlait des paradigmes tout à l'heure, hors antenne. c'est un chapitre... Enfin voilà, sur la forme, ça n'a rien à voir avec le reste. Et donc on nous propose une liste, enfin plusieurs paragraphes successifs avec un titre, et ça, c'est comme une définition, mais c'est pas vraiment ça, et ça explique un peu.
C'est un peu un résumé de. Enfin, moi j'ai pris un peu comme ça, c'est-à-dire un condensé de toute sa pensée.
D'accord. Alors.
Mais ça donne aussi à comprendre comment elle utilise certains mots et ce. Ce qu'il trimballe, en fait, de son point de vue à elle.
Alors, une sorte de lexique, c'est ça ?
C'est plus que ça, parce que ça te donne vraiment... c'est pas juste un glossaire avec une définition en face, hein, non, c'est vraiment... T'as un vrai paragraphe, et ça te dit tout ce que ça recouvre, connotation comprise, quoi.
Voilà, quand elle parle lesbienne, lesbianisme et tout ça,
okay. C'est intéressant. Ok, effectivement, j'y suis. Alors, j'ai paradigme. Alors, dans les termes qui sont proposés, il y a désir... Différence.
Oh, dis femme. Désir, parce désir, qu'on n'a pas dit ça.
Désir,
il est vachement
bien. Désir. Ouais. Donc, ouais. C'est le premier. Vous voulez que je le lise que
Allez, vas-y.
C'est parti. Dans le discours officiel sur la sexualité, qui est devenu la psychanalyse aujourd'hui, le désir est l'instinct, entre guillemets, qui fait que toute personne, quelle qu'elle soit, désire les rapports hétérosexuels comme seule satisfaction sexuelle et manifestation de la subjectivité possible. L'imaginaire. Les rêves, le désir, la volonté, tout concept lié à la subjectivité passe au travers de ce filtre et n'y survit pas. Hétérosexualisé, ces concepts deviennent des véhicules d'oppression. En tant que lesbienne, nous pouvons demander à la société hétérosexuelle « Qu'avez-vous fait de notre désir ?» Du désir en lui-même, un désir de pénis, un désir d'enfant, une caricature. Quelque chose qui est l'opposé du plaisir, l'ennui le plus complet. Que voulez-vous faire de notre désir ? Le faire rentrer dans le rang, avec des lobotomies, des thérapies forcées ? Obliger à pratiquer l'hétérosexualité, avec des rapports sexuels obligatoires, avec une obligation à la reproduction ? Si le désir pouvait se libérer, il n'aurait rien à voir avec le marquage préliminaire par les sexes. L'homosexualité est le désir pour une personne de son propre sexe, mais c'est aussi le désir pour quelque chose d'autre qui n'est pas connoté. Le désir est résistance à la norme.
Ben voilà. C'est bien, mais en fait, de lire
ça. Non, mais
ça.
C'est super fort, parce que du coup, ça renvoie aussi à un espace-temps, parce que bon, il y a quand même des choses... voilà, c'était aussi à une période où l'homosexualité était encore au niveau de l'Organisation mondiale de la santé... considéré comme une maladie mentale.
Mais c'était encore un délit en France. C'était pas dépénalisé. Si ça date des années 70.
Il y a des textes qui datent du début des années 80, donc voilà, celui-là je me rappelle plus. Mais ouais, non, c'est vachement intéressant. Et puis ce que je trouve aussi intéressant du point de vue d'aujourd'hui, c'est que il y a un certain nombre de désirs. Ressentis ou déclarés par des personnes homosexuelles qui sont tout à fait, quelque part, hétéronormées.
Oui, bien sûr.
Tu penses à quoi ?
Je sais pas.
Un débat qu'il y a en ce moment, par exemple. Est-ce qu'il y a renvoyé le désir d'enfant, le mariage, tout ce qui regarde... Oui, il y a un côté d'assimilation, en fait, par la société hétérosexiste...
C'est bien d'ailleurs à un moment ce qu'on a reproché aux gens qui se battaient pour l'égalité, pour le mariage pour tous, en disant vous étiez des forces subversives ouais. Et vous devenez des normes, enfin vous rentrez dans la norme.
C'est particulièrement ce que renvoient certains militants de la première heure qui ont une histoire différente de des gens qui revendiquent aujourd'hui plus ouvertement. Voilà, le droit au mariage, à l'adoption. Alors, après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se discute. Est-ce que c'est forcément hétéronormé que de combattre pour une ouverture
ça dépend de ce qu'on en fait.
Droit de ce type-là ? Effectivement, ça dépend ce pour quoi on se bat. Est-ce que c'est vraiment pour pouvoir faire des mômes, pour pouvoir vivre en couple, ou est-ce que c'est simplement pour, au même titre... Que les hétéros acquièrent un droit.
Et on peut être là-dedans, on peut être des chevaux de Troie.
Oui.
Pour reprendre un titre de chapitre.
Mais Moi, personnellement, j'ai marché sans vouloir me refaire passer la bague au doigt. Mmh. Mais c'est... Enfin... C'est sûr, ça facilite, mais actuellement, il y a des familles... Il y a des familles qui sont là, qui existent sans avoir attendu d'être adoubées sur le plan légal. Et donc la réclamation de traitement égalitaire, elle est tout à fait entendable pour moi.
Légitime.
Mais il y a aussi qu'il y a un intérêt derrière qui me renvoie au rouage capitaliste, quoi. Parce que c'est souvent la transmission d'un patrimoine. Mmh. Qui est en jeu.
Ça peut être ça, mais c'est pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, mais c'est un enfin c'est un le argument qu'on retrouve voilà, le fait qu'il y ait ça et qui est très entendable dans la société d'aujourd'hui. C'est pas que ça me dérange, c'est que je peux pas faire comme si ça n'avait pas de lien avec un ordre établi, voilà quoi.
Moi, ce que j'aime aussi dans ce que tu viens de lire là, c'est que je m'y retrouve tout à fait. Et je trouve que quand elle parle justement des lesbiennes, quand elle parle des femmes et tout ça, bah, elle parle de moi aussi. C'est ce que je disais dans une autre émission, c'est-à-dire que son propos, pour moi, il est... Enfin, je m'y reconnais quand elle parle d'opprimé, quand elle parle... Tu vois, ou là, quand elle parle du désir des lesbiennes...
C'est là
etc.
où je pense qu'elle réussit quelque chose qu'elle espère ou qu'elle revendique, c'est le fait de parler... D'un point de vue minoritaire, tout l'enjeu, c'est de réussir, de ce point de vue minoritaire, à le rendre universel. En fait.
Donc il y a un chapitre qui porte complètement là-dessus. Et je voulais rester deux minutes sur le désir, parce que c'est vrai que dans les extraits, un des extraits qu'on a entendu ce mois-ci du corps lesbien, et celui aussi qu'avait lu Philippe en une autre époque, pour moi, il y a une portée pro-sexe aussi énorme, quoi, dans le corps
pro-sexe,
lesbien.
Pro-sexe, tu voulais le placer aussi,
ah,
c'est
oui,
fait.
Ah oui, pro-sexe, pro-choix, pro-sexe.
Il y a des mots à placer à chaque fois.
Non, mais voilà, c'est une... Ou sexe positif, hein, il y a une valorisation du désir et de la sexualité. Et oui, et là, d'un point de vue lesbien, qui est quand même souvent invisibilisé ou dont la monstration est destinée en fait à un public mâle hétérosexuel. Voilà, donc voilà, je suis sensible à cette dimension.
Eh bien voilà, l'émission touche à sa fin et le mois avec Monique Wittig aussi.
C'est quelqu'un à lire et à relire, je trouve, Wittig. C'est quelqu'un d'important.
Qui est loin d'être épuisé d'ailleurs. Allez, on passe à un dernier petit extrait de Monique et on va conclure là-dessus. Et on se retrouve le mois prochain, la semaine prochaine, mais le mois prochain aussi.
Genre, d'accord.
Les aréoles, les échinoses, les plaies, les plis, les écorchures, les rides, les ampoules,
les gerçures,
les grains de beauté, les follicules, le sébum,